Il y avait un docteur, un ingénieur et un politicien. Ils discutaient de qui avait la profession la plus vieille. Le docteur dit, quand Ève fut créée du côté d'Adam, je suis sûr qu'un docteur était présent. L'ingénieur dit, oui, mais avant cela, il y avait des ingénieurs qui ont aidé Dieu quand il a fait de l'ordre du chaos. Le politicien dit, ah, c'est certain, mais il ne faut pas oublier qui a créé le chaos. Je ne sais pas combien de politiciens il y avait dans l'église de Corinthe, mais il y avait certainement du chaos. Dans sa lettre aux Corinthiens, au chapitre 14, à partir du verset 26, l'apôtre Paul s'adresse au problème du désordre lors des réunions de l'église. Comme nous avons vu, au moment où nous avons parlé du don de parler en langue, il semble que beaucoup de gens se mettaient à parler tous ensemble. Cela a amené la confusion, au point qu'un visiteur aurait dit en voyant les Corinthiens, « Vous êtes tous fous ». Dans ses instructions à l'Église, Paul met des limites à combien de personnes puissent parler en langue et prophétiser dans un culte. Il le fait pour que ces dons trouvent leur place correcte dans le bon déroulement du culte. Cependant, malgré tous les problèmes, les Corinthiens ont quand même fait quelque chose de bien. Je vais demander à Béatrice de venir nous lire 1 Corinthiens 14. Et quand nous arrivons au verset, du verset 26 au verset 33, nous allons voir ce que c'était la bonne chose que les Corinthiens faisaient. Béatrice.
Bonjour. Recherchez la charité, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes et les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas de son distinct, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites, car vous parlerez en l'air? Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai avec l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il « Amen » action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez des enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la foi, c'est par des hommes d'une autre langue, par les lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'ils surviennent, des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelqu'un non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de nous. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, que les autres jugent. Et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Je suis désolée, c'est moi qui peux. C'est un chapitre compliqué. Car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Amen.
Merci Béatrice. Juste pour vous rassurer, nous allons dans quelques semaines regarder ce que Paul dit à partir du verset 34 à propos des femmes dans l'Église. Voilà, le verset 26 nous donne un aperçu sur ce qui se passe, ou ce qui se passait dans un culte de l'Église primitive. Nous y trouvons des éléments qui, ensemble, font que les réunions des chrétiens de cette époque-là n'étaient jamais ennuyantes. Il faut quand même noter qu'il y a des choses qui manquent. Paul ne nous donne pas une liste complète. Il ne mentionne ni la prière, ni la lecture des Écritures, ni la Sainte Cène. Cependant, il est certain que les chrétiens de Corinthe pratiquaient ces choses. Il faut aussi ajouter qu'il n'y a pas d'obligation que chaque chose dans cette liste apparaisse à chaque réunion de l'Église. Ce sont des exemples de ce qu'il y avait et non pas un ordre de jour à suivre. Et c'était quoi la bonne chose que faisaient les Corinthiens? Simplement, ils participaient. Ils étaient impliqués dans tout ce qui se passait un dimanche matin dans l'église. Oui, il y avait des problèmes, il y avait du désordre, mais ils ont quand même saisi le fait qu'une réunion de l'église est pour tous ceux qui y sont présents. Le culte n'est pas réservé à un ou deux personnes, laissant tous les autres comme des spectateurs. Puis dans cette liste du verset 26, nous trouvons des éléments qui peuvent être préparés d'avance. Donc quelqu'un peut venir avec une instruction ou avec un chant. Il y a d'autres éléments qui sont spontanés, comme des révélations et des langues. Et cela nous montre, il me semble, tout simplement deux choses. Premièrement, nous ne pouvons pas et nous ne devons pas tout planifier dans nos cultes. Il faut laisser agir l'Esprit Saint et ne pas essayer de tout prévoir et tout contrôler. Je ne parle que pour moi-même, peut-être, quand je dis que cela est parfois difficile pour ceux qui président. Personnellement, j'aime bien savoir ce qui va se passer. Je n'aime pas trop les surprises. Cependant, et malgré cela, pour que nous ayons la spontanéité, il faut peut-être que nous prenions des risques. Je ne veux pas dire que nous devons tout permettre ou permettre n'importe quoi dans nos cultes, mais que nous soyons ouverts à ce que le Seigneur, par son Esprit Saint, nous dirige. Et ceci touche à notre zone de confort, un peu comme Chris a dit la semaine passée. Nous avons nos habitudes, nous avons notre façon de faire certaines choses dans l'Église. Et cela n'est pas mauvais pour autant, sauf si, ou quand, l'habitude devient une excuse pour ne jamais rien changer, ne jamais évoluer dans ce que nous faisons. On dit que tôt ou tard, une église commence à ressembler à son pasteur. C'est inévitable, apparemment. Mais est-ce que c'est vrai? Je ne veux pas, vous ne voulez pas, j'espère, que cette église soit une église à mon image. Cette église doit être une église belge, vous n'êtes pas anglais, hein, qui montre l'image de son Seigneur et l'amour et la passion de son peuple. Je peux avoir des idées de ce que nous pouvons faire. J'ai quand même une vision pour la direction de l'église. Mais c'est ensemble devant Christ que nous construisons cette église. Et c'est le Seigneur qui va nous former selon ses désirs. Mais cela seulement si nous sommes ouverts à son esprit, malléables entre ses mains comme l'argile entre les mains du potier. Deuxièmement, il faut quand même se préparer. On raconte l'histoire d'un prédicateur qui disait au début de sa prédication, « Je n'ai préparé que la moitié de mon message pour aujourd'hui. Le Saint-Esprit va me confier l'autre moitié. » Après un message très long, qui radotait pas mal, un des membres de l'église est allé chercher le prédicateur pour lui dire, « Je trouve que ta moitié du message était beaucoup mieux que celle de l'Esprit. » La préparation est aussi importante que la spontanéité pour un culte équilibré. Il ne faut pas croire que préparer veut dire automatiquement sec et ennuyant. Ceux qui préparent quelque chose d'avance doivent penser aux besoins de l'Église. Ils doivent aussi demander l'aide de l'Esprit pour ce qu'ils vont apporter. Et cela, c'est à la portée de nous tous. Quelques idées peut-être, vous en trouverez d'autres, j'en suis certain. On a déjà vu quelques exemples ce matin. Lisez un passage qui vous a interpellé pendant la semaine. Choisissez un chant à démarrer dans un moment de calme. Suivez-le par une petite méditation peut-être. Si choisir un chant ne vous intéresse pas trop, vous pouvez composer un nouveau chant. Amen. Et nous le chanterons tous ensemble. Écrivez une prière à l'avance pour lire lors de la réunion. Prier en public est très difficile pour pas mal de chrétiens. Nous ne savons pas toujours comment nous exprimer, quoi dire, même si nous avons beaucoup sur le cœur que nous voulions dire. Quand nous pensons à nos cultes, nous devons, il me semble, nous mettre constamment en question. Quelles sont les habitudes qui nous freinent dans notre culte? Sommes-nous si confortables dans notre façon de faire que changer nous semble trop difficile? Pensons-nous plus à notre culte personnel qu'à l'édification de tous? Comment est-ce que nous pouvons évoluer et améliorer notre culte? Plein de questions, pas beaucoup de réponses, mais des points de départ pour une discussion peut-être. Mais quoi que ce soit que nous fassions dans nos cultes, il y a un mot d'ordre pour toutes nos activités. Que tout se fasse pour l'édification. Ce n'est pas la première fois que nous rencontrons ce mot. Encore une fois, Paul cherche à ce que l'Église soit bâtie, que ses membres deviennent conformes à l'image de Christ, que chacun mûrisse et grandisse pour le bien de tous. Comme j'y avais fait allusion dans mes questions d'il y a quelques instants, nous ne venons pas à l'Église pour faire notre culte personnel, sans référence à ce qui nous entoure. La meilleure chose que nous puissions faire, c'est oublier nous-mêmes et participer pour que tout soit béni. Puis à partir du verset 29, Paul parle du jugement des prophéties et le comportement des prophètes. Tout ce qu'il dit est ancré dans le caractère de Dieu. Les réunions de l'Église doivent se passer d'une certaine manière parce que Dieu lui-même est un Dieu de paix. C'est écrit, « Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. » La première chose à dire sur ce verset est que Paul ne dit pas aux Corinthiens qu'ils doivent critiquer les prophéties. Juger dans ce contexte est quelque chose de positif. Juger parle de l'inspection de ce qui a été dit. Il faut examiner la parole du prophète pour voir si elle était une véritable prophétie de Dieu, conforme à sa parole déjà révélée. Si, pour finir, nous pouvons dire « oui, c'est une vraie prophétie », il faut réfléchir à quoi faire avec cette prophétie. Certains croient que quand Paul dit « que les autres jugent », il parle des autres prophètes dans l'Église, qui supposent qu'il y en a plus qu'un. Ou simplement, il parle de ceux qui sont responsables pour l'Église. Il est certain que ces personnes ont leur mot à dire, mais je crois que Paul pense plus large. Dans sa lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 5, le verset 21, Paul a écrit « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Si par la suite nous regardons 1 Jean 4, verset 1, nous trouvons que l'apôtre Jean avait une idée tout à fait semblable à celle de Paul. « Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit. Examinez plutôt les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de prophètes de mensonges sont sortis dans le monde. » Dans ces deux versets, les écrivains parlent chaque fois à l'Église entière. Ils s'attendent à ce que tout le monde juge les prophéties. Il me semble raisonnable alors de déduire de ce fait que les autres du verset 29 comprennent l'Église entière, c'est-à-dire tous les chrétiens qui sont présents à la réunion de l'Église. Puis la grande question peut-être, comment est-ce que nous jugeons les prophéties? En fait, cela va dépendre de notre réponse à une autre question sur la nature de la prophétie. Une prophétie peut-elle être infaillible? Fiable? Oh mince alors. Infaillible, merci. Nous n'avons pas le temps ce matin d'aller creuser dans tous les coins de la discussion qui tourne autour de cette question, mais j'aimerais prendre quelques minutes pour dessiner les grandes lignes qui vont nous aider dans le jugement des prophéties que les uns ou les autres puissent avoir aujourd'hui. Premièrement, il faut regarder dans l'Ancien Testament. Quel était le rôle des prophètes? Si vous voulez, vous pouvez chercher Deutéronome, le chapitre 18. Nous allons lire quelques versets. Et dans ces versets, nous trouvons quelques informations sur la place des prophètes dans la nation d'Israël. Et c'est Moïse qui raconte au peuple ce que Dieu lui a dit. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. En fait, je vois, en fait, on est au verset 18 et suivant. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Nous voyons de ces versets que les prophètes de l'Ancien Testament avaient une responsabilité incroyable devant Dieu pour ce qu'ils disaient. Le peuple aussi avait une responsabilité d'obéir aux paroles des prophètes de Dieu. Il y avait aussi des critères pour distinguer entre les vraies et les faux prophéties. Mais une chose qui devient évidente en lisant dans l'Ancien Testament est que le rôle du prophète n'était donné qu'à certaines personnes. Le don de la prophétie n'était pas répandu sur tous. Dans Nombre 11, à partir du verset 26, nous pouvons lire le récit suivant. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'Esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, « Eldad et Médad prophétisent dans le camp !» Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, « Moïse, mon Seigneur, empêche-les » Moïse lui répondit, « Es-tu jaloux pour moi ? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Le prophète avait une place importante dans la vie du peuple d'Israël. Quand un prophète avait été reconnu comme étant un prophète de Dieu, le peuple était tenu à lui obéir. Cependant, l'histoire d'Israël nous montre qu'ils avaient plutôt la tendance d'ignorer les prophètes que de les obéir. Et cette manque d'obéissance a amené pas mal de problèmes pour le peuple. Sans que cela change le rôle et la place des prophètes en général. Un prophète est toujours un prophète, même si personne ne l'écoute. Mais qu'est-ce que le rêve de Moïse alors? C'était que tout le peuple soit prophète, que chacun d'entre eux puisse communier avec Dieu sans devoir avoir quelqu'un comme Moïse qui était intermédiaire entre Dieu et le peuple. Comme vous le savez bien, peut-être aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Nous fêtons le jour où le rêve de Moïse se réalisa, des centaines et des centaines d'années après sa mort. Un autre prophète voyait le même jour, et l'apôtre Pierre l'a cité quand il a parlé à la foule à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Voilà, mes amis, nous vivons dans le dernier temps. dans les derniers jours. Chaque personne qui croit en Jésus comme leur Sauveur et Seigneur reçoit le Saint-Esprit. Qu'attendons-nous? Nous sommes le peuple sur lequel l'Esprit a été répandu. Jésus nous a donné son Esprit et ses dons ont été déversés sur son Église. Qu'est-ce que nous voyons donc dans le Nouveau Testament à propos des prophètes? Les prophètes du Nouveau Testament sont dans la même lignée de ceux de l'Ancien Testament. Ils écoutaient Dieu et ils parlaient au peuple. Mais quelque chose semble quand même avoir changé. Nous sommes maintenant appelés à juger les prophéties, les évaluer, les peser et discerner leur valeur. Je vous ai déjà cité quelques versets qui parlent de cela. Il est certain qu'il faut toujours discerner entre les vraies et les fausses prophéties, c'est-à-dire les prophéties qui viennent de Dieu lui-même et celles qui viennent de l'esprit humain ou de l'ennemi. Mais Paul, quand il dit qu'il faut juger les prophéties, voit plus loin. N'importe quelle prophétie donnée au temps du Nouveau Testament et après, jusqu'à aujourd'hui, doit être examinée. Nous ne devons pas accepter une prophétie avant qu'elle ne soit jugée. Que cela soit une prophétie donnée en plein milieu d'une grande réunion de l'Église ou une prophétie partagée entre deux personnes en privé. J'ai eu le grand privilège ces derniers temps de pouvoir faire des échanges de e-mails avec Claude et Alan Lorero concernant le don de la prophétie. Ces deux frères réfléchis et sages m'ont beaucoup appris même. Et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'ils m'ont apporté. Certaines de ces choses, je vous apporte aussi ce matin. Il faut donc que nous parlions de la transmission des prophéties. Ce n'est pas un sujet terriblement compliqué, mais nous devons penser à comment Dieu parle par la prophétie et quelles sont les choses qui peuvent changer le message entre le moment où il est donné et le moment où il est reçu. Et Claude m'a suggéré trois étapes à considérer dans le parcours d'une prophétie et je l'ai trouvé très intéressant. Premièrement, nous avons la transmission de la prophétie de Dieu vers son prophète. Puis la transmission de la prophétie du prophète vers les membres de l'Église. Et puis nous avons la mise en application, ou non, de la prophétie par les membres de l'Église. Je vais encore citer quelques mots de Claude. Je ne te gêne pas, j'espère. Que moi j'ai trouvé très clair et qui m'ont beaucoup aidé. Lorsque Dieu transmet son message au prophète, ce message est donné de manière claire, limpide et précise. Il n'y a pas de « à peu près », pas de « plus ou moins ». Mais il arrive des fois que le prophète ne saisisse pas le message tel que Dieu le lui donne. Souvent, c'est suite à la distraction, aux problèmes touchant personnellement le prophète et qui peuvent affecter sa concentration et sa capacité d'écoute vis-à-vis de Dieu. La prophétie donnée pourra alors être entachée d'opinions personnelles, d'avis personnels du prophète. Chaque prophète, vous serez étonné, est aussi un être humain, avec tout ce que cela nous amène. Nous ne sommes pas parfaits, c'est évident. Le message, la prophétie, passe par un conduit qui n'est pas parfait. Simplement pour de diverses raisons, nous ne sommes pas toujours bien à l'écoute. Puis, pour passer la prophétie aux autres, nous ne sommes pas des dictaphones. Nous essayons de mettre dans nos propres paroles quelque chose qui est éphémère, de passager, quelque chose que nous avons peut-être saisi que partiellement nous-mêmes. Après avoir dit tout cela, la prophétie est-elle vidée de toute valeur et utilité? Est-ce que Dieu perd son temps avec ce don? Pour finir, nous devons revenir à la question que j'ai posée tout à l'heure. Une prophétie peut-elle être infaillible? Ma réponse, mon avis, non. Une prophétie ne peut pas être infaillible. Mais elle nous est quand même utile. Je vais faire une comparaison et je vous pose aussi une question. Est-ce que vous vous attendez à ce que chaque prédication que vous écoutez à l'église soit parfaite? Si elle n'est pas parfaite, est-ce qu'elle n'a pas de valeur? Je peux vous donner l'exemple de mes propres prédications, même celle de ce matin. Il y a certains que je n'aime plus. Je trouve qu'elles ne sont pas assez claires, le français est mauvais, et il y a des erreurs. Et cela sans même parler de ma façon de prêcher. J'ai des anciennes prédications que je réutilise de temps en temps. Et quand j'arrive à les réutiliser, je dois souvent réécrire une grande partie parce que je ne suis pas content avec ce que j'avais écrit auparavant. Ma compréhension du sujet a changé, ou j'ai appris quelque chose de nouveau là-dessus, ou je me rends compte que ma position a changé. Si nous acceptons donc qu'une prédication ne soit pas parfaite parce qu'elle est donnée par un être humain, est-ce que nous pouvons demander plus de ceux qui prophétisent? Et pour finir, je crois personnellement que la réponse doit être non. Le prédicateur et le prophète sont tous les deux à l'écoute de Dieu. C'est au moins cela que nous espérons. Cependant, le message n'est pas donné parfaitement. Mais heureusement, cela n'est pas la fin de l'histoire. Et je répète encore les paroles de l'apôtre Paul au verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. D'ailleurs, nous pouvons étendre ce verset pour dire qu'il faut aussi juger des prédications. Voici la responsabilité de tous. Juger les prophéties. Dieu, par son Esprit Saint, nous donne le don du discernement. Par ce don, Dieu donne à certains, il me semble, la capacité de reconnaître la véracité d'une telle ou telle prophétie. Mais ce don n'existe pas dans un vide. Avec ce don, nous avons besoin d'une connaissance, une bonne connaissance, de la parole de Dieu. La Bible est notre autorité et toute prophétie doit être soumise à ce qu'elle dit. Je dis encore, la Bible est notre autorité. Et toute prophétie doit être soumise à ce qu'elle dit. Il faut que nous étudions la parole de Dieu, que nous la connaissons intimement, pour que nous puissions dire oui, cette prophétie s'accorde avec la parole de Dieu, ou non, cette prophétie ne s'accorde pas avec la parole de Dieu. Une illustration que je vous ai déjà racontée est tirée du monde bancaire. Apparemment, les nouveaux caissiers doivent apprendre la différence entre les vrais et les faux billets. Pour faire cela, ils examinent de près tout un tas de vrais billets. Ils les touchent, ils les sentent, pour tout ce que je sache, ils les mangent. Mais pour finir, ils les connaissent vraiment bien. Puis, le moment où un faux billet passe entre leurs mains, ils peuvent dire il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il en est ainsi pour nous avec la Bible. Le plus que nous la connaissons, le plus évident il sera quand une fausse prophétie est donnée. Nous saurons dire, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Nous avons besoin de la sagesse et de l'expérience. Nous avons aussi besoin de l'humilité et parfois le courage de dire devant l'assemblée et devant le prophète, non. Nous n'acceptons pas cette prophétie. Et c'est ici alors que nous allons tourner tout brièvement notre attention vers le comportement des prophètes. Je vous donne quelques instants pour respirer. Vous pouvez dire à votre voisin, il fait chaud et la prédication est longue. Si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Pourquoi Paul donne-t-il ses instructions aux prophètes ou à l'Église? C'est peut-être parce que certains des prophètes à Corinthe pensaient trop d'eux-mêmes et de leurs dons. Quand ils avaient l'occasion de prophétiser, ils monopolisaient le pulpitre. Il semble aussi qu'il perdait de vue la raison d'être de la prophétie, l'instruction et l'exhortation de tous. Et pour ces prophètes, se faire voir est devenu leur raison d'être. Et je trouve que la dernière phrase dans ces versets est vraiment intéressante. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Comme pour ceux qui parlent en langue, le prophète ne peut jamais dire qu'il n'avait pas de choix sur s'il parlait ou non. L'Esprit de Dieu n'agit pas de cette manière. Le prophète ne perd pas conscience. Il n'est pas dans un état d'extasie. Il n'a pas été envahi ou possédé au point qu'il n'a plus contrôle de ses propres actions ou sa propre bouche. Il est responsable à 100% de ce qu'il sort devant le peuple. Pourquoi y insister tellement? Dans certaines églises, les prophètes ont carte blanche de faire et dire ce qu'ils veulent. Ils ne doivent rendre compte à personne pour ce qu'ils disent. Ils déclarent que l'Esprit les pousse à parler et qu'ils ne peuvent pas se retenir. Mais cela est faux. En plus, pas mal de chrétiens dans ces églises ne mettent jamais en question les prophètes ou les prophéties qui sont données. Il faut que j'admette que cette situation me touche parce que dans le temps, j'ai trop vu les conséquences de cette attitude, les dégâts qui en sont le résultat. Cependant, il y a du bien là-dedans. Mais cela ne change rien au fait qu'il faut pouvoir mettre en question les prophéties et les prophètes. Ils ou elles ne parlent pas avec une autorité divine irréfutable. Nous sommes appelés à juger les prophéties, mais le comportement du prophète ne doit pas échapper nos regards. Qu'est-ce que nous cherchons chez les prophètes comme attitude? Je dirais premièrement et dernièrement l'humilité, c'est-à-dire un esprit qui n'est pas opposé aux questions ou à la correction. Par exemple, il me semble que si quelqu'un commence à dire dans une voix sombre et assurée, « Ainsi dit le Seigneur », il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions en ce qui concerne son humilité et son ouverture à la correction. Il n'est pas du tout mauvais de dire « Je crois que » ou « Je pense que le Seigneur me dit ». C'est l'humilité qui admet que je ne connais pas tout et que je suis capable de faire des erreurs et que je ne sois pas un conduit parfait pour la révélation de Dieu. Comment donc est-ce que nous jugeons les prophéties? Nous n'avons qu'un moyen. Il faut toujours évaluer les prophéties à la lumière des Écritures. La prophétie s'accorde-t-elle avec ce que Dieu a déjà dit? Comme je vous ai dit, cela ne se passe pas dans un vide. Il faut du discernement, il faut de la sagesse. Il faut peut-être parler avec d'autres chrétiens en qui nous avons confiance. Il y a aussi d'autres questions supplémentaires que nous pouvons poser, mais je suis convaincu que nous pouvons arriver à juger les prophéties correctement et agir en conséquence de ce jugement. Et ce que nous voyons du comportement des prophètes peut aussi nous aider dans nos délibérations. Je termine avec ce que Paul dit au verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Cette phrase est la charnière sur laquelle notre compréhension du jugement de la prophétie et le comportement des prophètes doit tourner. L'Esprit de Dieu agit pour qu'il y ait de la paix dans l'Église. Il ne fera jamais quelque chose qui va semer le désordre, la confusion ou la division. Quand l'Esprit de Dieu inspire une personne, un prophète, il le fait pour le bien de tous, pour que la volonté de Dieu soit accomplie parmi son peuple. Un commentateur a remarqué que l'esprit n'est pas comme une balle de ping-pong qui carène d'une personne à l'autre. Le problème du désordre à Corinthe ne peut pas être attribué à l'esprit, mais seulement à l'égoïsme de ceux qui croyaient que leur don était le plus important de tous. Il semble que, pour finir, le plus grand problème à Corinthe était un manque d'amour et de respect entre les chrétiens de l'Église. Comme c'est souvent le cas, il y a beaucoup plus à dire sur le sujet de la prophétie. Je peux penser à 1000 choses que je veux vous dire en plus. Mais je suis certain que vous voulez manger aujourd'hui, moi aussi. Il y a des avertissements aussi bien que les encouragements. Je vis personnellement avec des questions sur le sujet de la prophétie depuis des années. Et je me rends bien compte que, pour finir, j'y comprends si peu. Mais les questions sont toujours les bienvenues. Et je dirais que l'humilité dans ce sujet est essentielle. Prions ensemble. Seigneur, tout simplement, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu parles toujours à ton Église. Tu parles à travers ta parole, la Bible. Tu parles à travers ce qui tu inspires. Seigneur, nous voulons être un peuple qui utilise les dons que tu nous donnes de la bonne manière. Ne pas les abuser, ni les rejeter, mais les utiliser avec prudence, avec soin. Et dans tout cela, Seigneur, nous nous rendons compte aussi que les dons sont à ta disposition, non pas les nôtres. C'est toi qui les déverses sur ton Église, c'est toi qui décides ce qui va se passer. Et Seigneur, nous nous soumettons à ta volonté. Simplement que ta volonté soit faite dans cette Église pour la gloire de ton nom. Amen.